Great Crossing, Franklin Delano Roosevelt, the Ally.
Grande Traversée, Franklin Roosevelt, l'Allié. Septembre 1942, dans le journal d'Henry Morgenthau. J'ai dit au président, « Nous ne pouvons pas gagner cette guerre par les airs, n'est-ce pas ?»« Absolument, m'a-t-il répondu. On ne gagnera qu'au sol. » David Wooner.
Une fois que la guerre a commencé, il s'est trouvé face à un dilemme, car la stratégie américaine reposait sur l'idée que l'Allemagne serait l'ennemi principal et que nous resterions sur la défensive dans le Pacifique. Une fois que l'Allemagne serait vaincue, nous nous occuperions du Japon. Mais bien sûr, nous avons été attaqués dans le Pacifique. Et tout à coup, les troupes américaines sont parties pour le Pacifique. C'était un renversement de ce qu'on appelle la stratégie America First, l'Amérique d'abord. Il a donc dû trouver un moyen d'impliquer les États-Unis dans le théâtre européen, ou ce qu'on appelle le théâtre atlantique. C'était un dilemme très difficile, car nous n'avions pas les capacités militaires nécessaires pour débarquer en France. Le général Marshall, son chef d'état-major, pensait que nous devions renforcer notre armement et aller en France le plus rapidement possible. Mais tous reconnaissaient qu'une invasion de la France en 1942 était impossible.
7 juillet 1942, dans le journal d'Henry Morgenthau. À un moment de la conversation, j'ai soulevé la question de la Palestine, des Juifs, et de la suggestion de Weizmann d'envoyer ce colonel Wingate monter une division de 40 000 Juifs pour combattre dans le désert de Palestine. Le président m'a dit qu'il avait répondu à Weizmann que ce n'était pas le moment et que les Anglais craignaient un soulèvement des Arabes.
Alors comment Roosevelt a-t-il engagé le peuple américain dans la guerre européenne en 1942? En fin de compte, la logique était d'envahir l'Afrique du Nord. Cette idée était très controversée parmi ses chefs d'état-major. Ils y étaient opposés. Ils pensaient que cela entraînerait les États-Unis dans une région du monde où ils n'avaient pas besoin d'aide. Mais Roosevelt y croyait dur comme fer. Bien sûr, l'Afrique du Nord était contrôlée par le gouvernement français de Vichy, et beaucoup espéraient qu'il réussirait, à l'aide de divers espions et réseaux, à convaincre les Français de Vichy de laisser entrer les Américains, les forces anglo-américaines, sans aucune résistance. Mais c'est une décision qu'il a prise. Et il l'a prise malgré les objections de ses chefs d'état-major.
17 novembre 1942, dans le journal d'Henry Morgenthau. J'ai vu le président ce matin, et je lui ai dit que j'avais besoin de lui faire part de mes doutes. Il m'a dit qu'on se retrouve avec Darlan sur les bras parce qu'il est ce qu'il reste de la France là-bas, que Darlan veut sauver un maximum de vies et maintenir un semblant d'autorité du maréchal Pétain. C'est un calcul purement militaire, m'a dit le président. Il m'a fait part d'un proverbe bulgare qui dit « Tu peux marcher avec le diable aussi loin que le pont. Ensuite, abandonne-le. »
L'invasion a donc eu lieu en novembre 1942. Comme Marshall le craignait, les opérations en Afrique du Nord ont pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est en partie parce qu'Adolf Hitler a surpris tout le monde en envoyant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de soldats en Tunisie, ce qui a rendu la bataille pour la Tunisie très difficile. Cette campagne nord-africaine a donc duré longtemps. Et tout à coup, en mai 1943, elle s'est terminée. Et la question était de savoir comment rejoindre la France. Ils n'avaient pas le temps, sur le plan logistique, de déplacer tous leurs hommes et tout leur matériel vers la Grande-Bretagne. Organiser une invasion transmanche était tout à fait impossible au cours de l'été 1943. Ils ont donc trouvé un compromis en lançant une série d'attaques. La première a été l'invasion de la Sicile en juillet, dont ils espéraient qu'elle conduirait à la capitulation de l'Italie, ce qui a été le cas, puis l'invasion de l'Italie en septembre. Mais tout s'est passé exactement comme Marshall l'avait prédit. Nous menons la guerre en Méditerranée, nous n'envahissons pas la France. Et il ne cessait de répéter que si on voulait détruire l'Allemagne, il fallait détruire les armées allemandes en France. Que faisons-nous en Afrique du Nord ?
Le jeune Jan Karski, émissaire du gouvernement polonais en exil, n'oubliera jamais sa rencontre avec Roosevelt le 28 juillet 1943. Il la racontera à la fin de sa vie à Claude Lanzmann.
I had no chance.
Le président ne m'a rien demandé.
My initial statement to tell you, Mr. President, listen to me. Well, you don't speak to the President of the United States.
Si je n'en avais pas pris l'initiative, rien n'aurait été dit du sort des Juifs pendant cette conversation qui a duré 1 hour 20 minutes. Rebecca Herbelding.
Jan Karski was a young man. I think he was 27 or 28
years old. Jan Karski était jeune. And had linked up with the Polish resistance. Il devait avoir 27 ou 28 ans quand il a rejoint la résistance polonaise. Il avait réussi à s'introduire dans le ghetto de Varsovie. Il était donc allé à l'intérieur du ghetto. Et il avait été témoin de ce qui s'y passait. Il était également allé à Ibiska, un camp de transit où il avait observé des prisonniers qui étaient ensuite transférés au camp d'extermination de Belzec. Karski a réussi à fuir la Pologne. Il s'est d'abord rendu en Grande-Bretagne où il a rencontré des officiels britanniques, puis aux États-Unis où l'ambassade polonaise l'a aidé à décrocher un rendez-vous à la Maison-Blanche. L'essentiel du rendez-vous a porté sur ce qui se passait en Pologne. C'était l'idée que voulait faire passer l'ambassade polonaise. Cet homme est allé en Pologne, il peut vous dire ce qui s'y passe. Karski a donc parlé de tout cela au cours de son entretien avec Roosevelt, qui devait être bref et qui a duré environ 1 heure. Vers la fin du rendez-vous, Karski a dit « Je veux aussi vous parler du sort que subissent les Juifs ». Et il a expliqué à Roosevelt ce qui se passait et ce dont il avait été personnellement témoin dans le ghetto de Varsovie. Roosevelt a dit « C'est une tragédie ». Et Karski lui a demandé ce qu'il allait faire. Roosevelt, selon Karski, aurait rétorqué « Eh bien, nous allons gagner la guerre ». À ce moment-là, du moins d'après Karski, Roosevelt pensait que la solution était de gagner la guerre le plus tôt possible. Voilà ce que les États-Unis peuvent faire pour les Juifs en Pologne. Le rendez-vous s'est suffisamment bien passé pour que Roosevelt et des employés de la Maison-Blanche aident Karski à rencontrer des officiels du département d'État, Henry Morgenthau au département du Trésor, et le juge de la Cour suprême, Félix Frankfurter. Lorsque Karski a rencontré Frankfurter, ce dernier lui aurait dit, selon Karski, mais sa phrase est restée dans les annales, « Je ne vous crois pas ». Karski a insisté, « Je vous dis la vérité ». Et Frankfurter a répondu, « Je ne peux pas vous croire. Je ne vous dis pas que vous êtes un menteur, mais je ne peux pas croire ce que vous dites. Tant émotionnellement qu'intellectuellement, je ne peux le comprendre ». C'est quelque chose que Karski a porté tout au long de sa vie. Le fait qu'il ait essayé de parler, mais que personne ne l'écoutait.
30 août 1943 dans le journal d'Henry Morgenthau. Cette nuit, j'ai rêvé que j'entrais dans le bureau du président. Il était assis avec Lord Mountbatten, tous deux penchés sur une carte. C'était la carte du Danemark. En me voyant la regarder, le président l'a aussitôt repliée. Alors, dans mon rêve, je me suis dit « Haha, le président et Mountbatten préparent un débarquement au Danemark ». Et puis je me suis réveillée, j'ai allumé la radio et j'ai entendu que les troupes allemandes prenaient position au Danemark.
À la fin de l'année 1943, les chefs d'état-major américains, Marshall et d'autres, ont déclaré « C'est fini. Nous ne soutiendrons pas d'autres opérations en Méditerranée. Nous devons nous rendre en France. » C'est à la suite de cela que Roosevelt a tapé du poing sur la table et plaidé pour une invasion de la France au printemps 1944. Lors du sommet de Téhéran en novembre 1943, Staline et Churchill le prennent au mot. Croyez-vous ou non à une invasion transmanche? Êtes-vous sérieux? Staline a demandé à un moment donné, avez-vous nommé un commandant? Il ne l'avait pas encore fait. C'était très embarrassant pour Churchill et Roosevelt. En conséquence, Roosevelt a très vite porté son choix sur Eisenhower et il l'a nommé commandant suprême des forces alliées en Europe.
At one point in December 1943,
À un moment donné, en décembre 1943, un fonctionnaire du département du Trésor se faufile dans le département d'État. Il traverse la pelouse de la Maison Blanche jusqu'au bâtiment situé en face, qui abrite le département d'État. Il s'introduit dans la salle des archives et apprend, en consultant les dossiers internes, que des diplomates américains ont reçu l'ordre de ne plus envoyer d'informations sur la Shoah aux États-Unis. Ces informations étaient transmises à des activistes qui mettaient la pression sur le gouvernement pour qu'il en fasse plus. Et les officiels du département d'État estimaient que si les militants ignoraient ce qui arrivait aux Juifs, ils cesseraient de faire pression sur le gouvernement. Le département d'État a donc la réputation d'être plus conservateur, plus antisémite, plus anti-immigré, plus nativiste, et plus isolationniste que les autres agences gouvernementales de l'administration Roosevelt. Le département du Trésor a donc été extrêmement contrarié par cette situation. Il a rédigé une note intitulée « Rapport au secrétaire sur l'assentiment de ce gouvernement au meurtre de la population juive en Europe ». Dans cette note, ils disent « Nous, les États-Unis, disons que nous essayons d'aider, mais le département d'État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher cette aide d'advenir. Nous vous laissons le soin de déterminer si les officiels du département d'État pourraient être des criminels de guerre. L'administration Roosevelt sera tenue pour responsable de l'assassinat des Juifs d'Europe si nous n'agissons pas maintenant. » Morgenthau et deux membres de son équipe se rendent donc à la Maison Blanche en janvier 1944 pour apporter toutes ces preuves. Ils les présentent à Roosevelt. Ils apportent également le projet d'un décret qu'ils lui demandent de signer et qui crée une nouvelle agence gouvernementale chargée de sauver les Juifs. Lors de la réunion, Roosevelt les écoute. Il signe donc le décret. Il devient officiel le 22 janvier 1944. À partir de ce moment, les États-Unis mènent une politique de sauvetage et d'aide humanitaire.
7 mars 1944, dans le journal d'Henry Morgenthau. J'ai transmis au président le rapport d'activité du Bureau des réfugiés. Il était très intéressé. Mais j'ai eu du mal à faire entendre mes histoires de réfugiés. Il voulait parler de la Palestine. Il m'a dit qu'il tentait de convaincre les Anglais de déclarer publiquement que les Juifs d'Europe que nous sauverons pourront aller en Palestine. Il a utilisé le mot « Palestine ».
Ce bureau était presque entièrement composé d'employés du département du Trésor. Ils font quelque chose de très rare pour des représentants du gouvernement. Ils demandent conseil aux organisations humanitaires privées pour déterminer ce qu'ils doivent faire. Donc ils s'entretiennent avec des Quakers et des organisations juives et ils leur demandent « Quelles sont vos idées ? À quoi devrions-nous nous intéresser ?» L'administration Roosevelt s'appuyait sur des personnes qui étaient sur le terrain et qui pouvaient travailler directement avec ceux qui avaient besoin d'aide. Et quand la guerre a commencé, cela s'est poursuivi. C'était une idée très forte. Beaucoup d'organisations juives avaient encore des relations solides en Europe et elles savaient comment faire en sorte que l'argent arrive entre les bonnes mains pour aider les gens. Au cours de la dernière année de la guerre, les États-Unis ont approuvé l'envoi en Europe de l'équivalent actuel de près de 200 millions de dollars. Ils ont acheté des colis alimentaires et ils les ont envoyés dans les camps de concentration. Ils ont lancé une campagne de guerre psychologique en diffusant des émissions de radio et des tracts en territoire ennemi pour avertir la population que les États-Unis organiseraient des procès pour crimes de guerre à l'issue du conflit. Ils ont vraiment essayé de profiter du fait que les Alliés allaient probablement gagner. Cela signifiait que les États-Unis pouvaient dire à toutes les nations neutres d'Europe, la Suisse, la Suède, la Turquie, l'Espagne et le Portugal, vous avez joué sur les deux tableaux pendant tout ce temps, mais les Alliés vont gagner. Les États-Unis vont être victorieux et nous voulons que vous nous aidiez.
You can get on our good side now if you help us.
Vous pouvez rejoindre le bon camp maintenant, en laissant passer plus de juifs à votre frontière, en transmettant des informations sur les nazis, en dénonçant leurs agissements.
Ladies and gentlemen, the President of the United States. My fellow Americans.
Compatriotes américains.
Last night,
la nuit dernière,
when I spoke with you about the fall of Rome,
quand je vous parlais de la chute de Rome,
I knew at that moment,
je savais qu'au même moment, les troupes des États-Unis et alliés étaient en train de traverser la Manche pour une autre opération.
In another and greater operation.
Bien plus importante.
It has come to pass with success.
Une opération qui jusqu'ici est en passe de réussir.
And so,
et donc,
in this poignant hour,
en cette heure poignante,
I ask you to join with me in prayer.
Je vous demande de vous joindre à moi dans la prière.
Il ne faut pas oublier que la personne qui militait le plus pour l'invasion transmanche était Joseph Staline. Encore une fois, ce point est souvent mal compris par les historiens. On pense que les Américains voulaient débarquer en France le plus rapidement possible parce qu'ils craignaient une domination soviétique de l'Europe. Mais en réalité, ils voulaient arriver en Europe le plus rapidement possible parce qu'ils craignaient l'effondrement de l'Union soviétique. C'était par peur de l'Allemagne. On a tendance à oublier que la plus grande peur, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, pas la Russie. On ne faisait pas confiance aux Russes. On finirait par être très méfiant à leur égard. Mais le but de la Seconde Guerre mondiale était de vaincre l'Allemagne. Et nous devions intervenir. Et c'est ce qui a fini par arriver en juin 1944.
Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nos fils, fierté de notre nation, ont entamé une tâche considérable, un combat pour préserver notre République, notre religion et notre civilisation, et pour libérer une humanité souffrante. Mène-les dans le droit chemin. Donne force à leurs bras, vigueur à leur cœur, ténacité à leur foi. Ils seront douloureusement mis à l'épreuve,
without rest,
de jour comme de nuit,
until the victory is won.
Sans repos jusqu'à la victoire.
The darkness will be rent by noise and flame.
Les ténèbres seront remplies de bruit et de flammes.
Will be shaken with the violences of war.
La violence de la guerre ébranlera l'âme des hommes.
They fight not for the lust of conquest.
Ils ne se battent pas par désir de conquête.
They fight to end conquest.
Ils se battent pour mettre fin aux conquêtes.
They fight to liberate.
Ils se battent pour libérer.
They fight to let justice arise.
Ils se battent pour qu'advienne la justice, la tolérance et la bonne volonté parmi tout ton peuple.
Some will never return.
Certains ne rentreront jamais.
Embrace these, Father.
Adopte cela, Père.
And receive them, thy heroic servants.
Et reçois-les,
into thy kingdom.
Les serviteurs héroïques dans ton royaume.
Attaque est dirigé contre la limite d'un bois à 200 mètres de nous.
Juin 1944. Reportage de la radiodiffusion française.
La DCA tire avec rage. Partout dans l'air autour de sa parure ennemie, crépite comme des étincelles. Les avions, eux, piquent l'un après l'autre et à la fin du piqué, répondent par l'ensemble de bord. Ils tirent en rafale. Et maintenant, ils lancent des fusées. Sous chaque aile pendent deux ou trois cylindres. Derrière ce cylindre, il y a une flamme jaune-rouge. Et puis la fusée, avec un sillage blanc, file vers la terre, comme une comète, avec un sifflement assourdissant.
Kirsten Carter.
J'ai ici un carton qui vient de ce qu'on appelle les archives de la salle des cartes. Ce dossier-là est étiqueté « Carte de situation des opérations terrestres sur le théâtre européen ». Celle-ci va du 1er au 15 juillet 1944. En gros, un mois après le début du débarquement. Les troupes américaines et alliées étaient en train d'avancer en France.
Je dois le faire slowly.
Je les manipule avec soin.
This map is the situation map.
Ça, c'est la carte de situation des opérations terrestres sur le théâtre européen numéro 38. Elle est datée du 13 et du 14 juillet 1944. Cette ligne suit leur progression.
La carte dont vous parle, Kirsten, est une carte de Normandie, la région où les Alliés ont débarqué, avec le Havre à droite et Cherbourg à gauche. On a une vue d'ensemble de la région. Ces données étaient actualisées physiquement à chaque fois qu'un nouveau rapport arrivait.
William Harris.
Si bien que la carte suivante décrivait la situation du lendemain, voire de quelques heures plus tard. Par exemple, les cartes 39, 47 et 60 que vous avez là, des côtes du centre de la Normandie, représentent la 9e division d'infanterie. Le matin du 12 juillet, la division progresse en direction du sud-ouest.
La Haye and La Brest. Later the same day, the division.
Plus tard, le même jour, ils atteignent la périphérie nord de Gournay. Le village d'Ile a aussi été occupé le 12 juillet. Ça vous permet vraiment de voir l'avancée.
Nous nous calmons. Et pouvons sortir le buste du trou. Nous n'avons pas été découverts. Et d'ailleurs, si les fusées ont un effet démoralisant à cause de leur bruit, qui vous tord le ventre, ces fusées n'ont pas tellement d'effet destructeur. Ce sont des bombes de pas très gros calibre. Ces attaques n'ont pas, en tout cas, pu briser la résistance du soldat allemand qui a reçu l'ordre de tenir la position dans le bois d'avant.
The camp could have been bombed.
Les camps auraient pu être bombardés. On sait que des avions américains survolaient la région au cours de l'été et de l'automne 1944. C'est donc une certitude absolue.
The question I think that is trickier is:
la question qui me semble plus délicate est de savoir si les bombardements seraient parvenus à interrompre le massacre. C'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse, puisque cela n'a pas eu lieu. Et je sais aussi que le département de la guerre, qui était chargé de dire non, ne s'est jamais penché sur la question. Il n'a pas fait d'études pour savoir s'il était possible d'utiliser ce type de bombe et d'atteindre les fours crématoires, ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ne se sont pas penchés sur la question. Ils se sont contentés de dire non.
25 août 1944 dans le journal d'Henry Morgan Sow. J'ai vu le président ce matin et pour la première fois j'ai été choquée de voir à quel point c'est un homme malade. Il semble perdre de la force. Il était sympathique, il m'a reçu en avance, je suis restée 25 minutes. J'ai dit au président qu'il y avait de bonnes chances que la guerre contre l'Allemagne se termine au mois d'octobre et que j'étais sans doute le seul en ville à m'inquiéter du chômage que cela allait entraîner. Je lui ai dit qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des centaines de milliers de gens sans emploi à Détroit. Il était d'accord. Je lui ai dit que ces travailleurs pourraient rapidement se retourner contre lui. Il était d'accord. Il m'a dit qu'il allait donner l'ordre le jour même qu'aucune industrie sous contrat de guerre avec le gouvernement ne soit autorisée à licencier sans l'accord de Washington.
Monsieur Dewey n'a pas été élu à la présidence des États-Unis. Pour la quatrième fois, les Américains ont fait confiance à Franklin Roosevelt. Et le candidat malheureux a sportivement reconnu sa défaite. Dans son bureau de la Maison-Blanche, où il vient de renouveler son bail pour 4 ans, l'ancien et nouveau président a repris son fauteuil, ou plutôt l'a conservé. Roosevelt continue. Roosevelt fait la guerre.
Just hand me my old Martin, for soon I will be starting. Back to dear old Charleston, far away. Since Roosevelt's been re-elected, we'll not be neglected. We've got Franklin, dear Roosevelt, back again. Back again.
Back again.
Back again.
Back again.
We've got Franklin, dear Roosevelt, back again. Since Roosevelt's been elected, moonshine liquor's been corrected. We've got legal wine, whiskey, beer, and gin.
When he went to Yalta at the end,
quand il est allé à Yalta, à la fin, Staline, qui n'était pas l'homme le plus sentimental de la Terre, a laissé entendre qu'il ne l'aurait pas fait venir si loin s'il avait su à quel point il était handicapé. C'est une des rares occasions où Staline a fait preuve de sollicitude. You can laugh and tell a joke, you can dance, drink and smoke. We've got Franklin D. Roosevelt back. David Woolner.
Je ne pense pas que Roosevelt était trop faible ou trop malade. Roosevelt était en pleine possession de ses moyens. Et il regarde au-delà de la victoire. Il considère Yalta comme un début et non comme une fin. On a tendance à penser qu'il s'agit du dernier sommet en temps de guerre entre Churchill, Staline et Roosevelt, et que c'est en quelque sorte la dernière occasion pour Roosevelt de garantir un accord en Europe de l'Est, qui aurait été beaucoup plus avantageux pour les Polonais. Mais en réalité, ils ne sont pas parvenus à un accord sur la Pologne. Ils l'ont remis à plus tard. Les relations entre Roosevelt et Staline étaient déterminantes. Et je pense que ce qu'il faut comprendre quand on réfléchit à cette dynamique, c'est que Roosevelt gardait toujours en tête ce qui se passerait après la guerre. Il pensait à la création des Nations Unies, à la sécurité internationale et à la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Il voulait à tout prix l'éviter. Encore une fois, il est important de se rappeler que la principale crainte, c'était celle d'une résurgence de l'Allemagne. Il existait une organisation à New York appelée Société de prévention d'une troisième guerre mondiale. Elle n'était pas axée sur la Russie ou les communistes. Elle se concentrait sur l'Allemagne. Même les chefs d'état-major américains, je veux dire tout le monde, comprenait. Je ne cherche pas à minimiser l'importance de l'armée américaine ou de l'invasion anglo-américaine et canadienne de la Normandie. C'était très important. Mais le gros des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe s'est déroulé entre la Russie et l'Allemagne. Et les 9 dixièmes des pertes allemandes ont été causées par les Russes. C'est eux qui se sont battus pied à pied, année après année. La Russie était donc un partenaire extrêmement important, non seulement pour Roosevelt, mais aussi pour les chefs d'état-major américains. Avec le recul, on se dit évidemment que les Alliés allaient gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, nous n'étions même pas encore en Allemagne. Nous n'avions même pas encore franchi le Rhin. Nous étions seulement à la périphérie de l'Allemagne. À son arrivée à Yalta, Staline était contrarié. Pourquoi n'en êtes-vous pas plus loin ? On pense qu'il s'agit d'une course qui arrivera le premier, et on ne veut pas que ce soit les Russes. Ces puissances militaires sont face à un énorme défi qui s'appelle la défaite de l'Allemagne. Et ils essayent de déterminer comment s'y prendre.
Il est déjà mort quand l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Harry Truman, son vice-président, est en fonction.
Ça, je me souviens très bien le jour de la victoire en Europe.
Ivan Nabokov.
Je suis allé avec ma mère à Times Square pour célébrer où tout le monde se réunissait. Les confettis, les hurlements, les joies, tout ça. Et en revenant de ça, on habitait la 61e rue. Et on trouve dans la rue, marchant seul dans la rue, la veuve Eleanor Roosevelt. Et ma mère m'a poussé pour aller le saluer. J'allais le saluer, je dis, madame, on pense à vous ce jour-là, c'est sans votre mari pour être là, c'était quel bon. Elle m'a beaucoup remercié, c'est tout.
La guerre s'achève par la bombe atomique. Hiroshima, le 6 août 1945. Nagasaki le 9 août.
Une autre question sans réponse découlant de la mort prématurée de Franklin Roosevelt est de savoir s'il aurait ou non largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C'est très difficile d'y répondre. Roosevelt croyait beaucoup à la puissance aérienne. Même si au début de la guerre, il était opposé au bombardement de cibles civiles, comme beaucoup de dirigeants, quand les États-Unis sont entrés en guerre, ils se sont engagés dans des bombardements intensifs des villes allemandes et de Tokyo. Ces campagnes, qui étaient vraiment horribles, ont été lancées en 1945. Nous menions donc déjà des campagnes aériennes très violentes.
Très violentes aériennes.
Cela dit, si on examine attentivement le dossier, on peut penser que Roosevelt était engagé dans ce qu'on appelait à l'époque, en septembre 1944, une mûre réflexion. Encore une fois, beaucoup de gens ne le savent pas, mais en 1944, de nombreux scientifiques, et même des officiels du gouvernement, comme Vannevar Bush, James Conant et d'autres, étaient très inquiets de la possibilité d'une course aux armements nucléaires après la guerre. Il y a eu beaucoup de conversations du temps de Roosevelt pour tenter de déterminer quand il fallait avertir les Russes, comment il fallait le faire, et ainsi de suite. Les scientifiques savaient que si ces armes étaient produites en masse et détenues par différents pays, le monde pourrait cesser d'exister. Churchill était furieux à ce sujet. Churchill considérait le monopole atomique de la Grande-Bretagne et des États-Unis comme une sorte de garantie de la puissance britannique. Sur l'insistance de Niels Bohr, il a rencontré Roosevelt en septembre 1944 à Hyde Park, dans l'État de New York, où ils ont signé un document appelé le Hyde Park Memorandum, qui disait explicitement qu'ils ne partageraient pas le secret atomique. Ils rejetaient cette idée. Mais le document précisait également qu'ils pourraient envisager d'utiliser l'arme nucléaire contre le Japon après mûre réflexion. C'est de là que vient l'expression. Et Roosevelt a évoqué lors de cette conversation avec Churchill la possibilité d'une démonstration de la bombe atomique aux Japonais avant de l'utiliser. Cela ne signifie pas qu'il ne l'aurait pas largué si cela avait été nécessaire. Pensez à la position dans laquelle il se trouvait, dans laquelle n'importe quel président se trouverait en tant que commandant en chef. Vous risquez de perdre des centaines de milliers d'hommes dans une invasion du Japon, alors que vous disposez d'une arme qui pourrait peut-être mettre fin à la guerre sans avoir à envahir. Je pense que n'importe quel président aurait trouvé très difficile de ne pas utiliser cette arme pour mettre fin à la guerre. Donc, je ne dis pas qu'il aurait catégoriquement refusé, mais il est possible qu'il aurait saisi l'occasion de faire une démonstration de la bombe. Et peut-être que les Japonais auraient opté pour un accord négocié. Il est vraiment mort à un très mauvais moment, à la fois par rapport à ce qui s'est passé après la guerre en Europe de l'Est, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé au Vietnam. Je pense que si Roosevelt avait vécu ne serait-ce qu'un mois ou deux de plus, nous n'aurions peut-être pas eu la guerre du Vietnam. Truman a pris très tôt des décisions déterminantes, notamment lors de sa rencontre avec De Gaulle en mai 1945, au cours de laquelle il a essentiellement invité les Français à revenir dans leur colonie. Roosevelt aurait posé des conditions beaucoup plus strictes. Rappelez-vous, quand Roosevelt est devenu président en 1933, l'une des premières choses qu'il a faites, en 1934, a été d'adopter une loi garantissant l'indépendance des Philippines en 1946. Il ne voulait pas que les États-Unis soient une puissance coloniale. Il était très anticolonialiste, très contrarié par le colonialisme britannique et très hostile à l'idée d'une réinsertion des Français en Indochine. Là encore, les circonstances se sont finalement révélées difficiles. Il est devenu de plus en plus compliqué pour lui de résister à ces choses-là. Mais je pense que s'il avait vécu plus longtemps, et s'il avait été présent lors de la signature de la Charte des Nations Unies et de la mise en place de ses tutelles, j'imagine qu'il aurait plaidé pour des dispositions qui auraient conduit à une certaine forme d'indépendance par la suite. C'est une tragédie. Mais il ne faut pas oublier que le 1er septembre 1945, quand Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam, il se tenait à côté de deux officiers américains de l'OSS qui soutenaient les Vietnamiens dans leur lutte contre les Japonais.
Le président m'a dit, écrit Henry Morgan Saul le 19 août 1944, il faut être dur avec l'Allemagne. Je veux dire tous les Allemands, pas seulement les nazis. On n'a pas le choix. Soit on les castre, soit on les traite de telle manière qu'on leur fait passer l'envie de se comporter comme ils l'ont fait. J'ai dit, eh bien, monsieur le président, personne n'envisage les choses comme vous en Europe. Ils veulent reconstruire l'Allemagne pour qu'elle paie les réparations.
Franklin Roosevelt says, Rebecca yes, yes, I agree with you, Henry. The Germans should be punished.
Franklin Roosevelt dit, oui, oui, je suis d'accord avec vous, Henry. Les Allemands doivent être punis. Mais Franklin Roosevelt disait toujours aux gens ce qu'il voulait entendre. Donc, était-il vraiment d'accord avec Morgenthau? Ou bien aurait-il choisi une autre voie? Les historiens débattront donc toujours de ce que Franklin Roosevelt voulait dire lorsqu'il déclarait ceci ou cela.
When we think about the Cold War, I think it's important to recognize that Stalin, in the
quand on pense à la guerre froide, je pense qu'il est important de reconnaître que Staline, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, a respecté les accords conclus à Yalta avec les Britanniques et les Américains concernant la Grèce et les autres pays dont j'ai déjà parlé. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de la reconstruction de l'Europe de l'Ouest en 1947 avec le plan Marshall, qui comprenait une aide à l'Allemagne de l'Ouest, ce que les Russes n'arrivaient pas à comprendre. Pourquoi investir dans cette puissance qui a tant dévasté notre pays? C'est ce qui a conduit au blocus de Berlin et à toutes ces tensions. On a tendance à l'oublier. Je pense que si Roosevelt avait vécu, on peut imaginer que d'autres types d'arrangements auraient vu le jour. Peut-être une Allemagne neutre, je ne sais pas, on en est réduit aux conjectures.
Je pense que Roosevelt avait de grandes idées. Il aimait voir le monde comme un jeu d'échecs dont il pouvait déplacer les pièces. Mais je ne crois pas qu'il avait une véritable
vision
de ce à quoi un État juif pourrait ressembler.
Il était très favorable à l'idée d'une patrie juive en Palestine. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il soutenait un État juif. Il parlait de patrie juive. Le meilleur exemple est sa fameuse visite au roi Ibn Saoud en 1945. Il avait fait le voyage jusqu'à Yalta. Il était au milieu de cette conférence très difficile. Mais il était absolument déterminé à poursuivre ce que j'appelle sa dernière mission, à savoir cette rencontre avec Ibn Saoud. Les États-Unis avaient besoin de pétrole. Ils entretenaient des relations de plus en plus étroites avec le monde arabe. Les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de laisser le Moyen-Orient en proie à des troubles. Et tous ces organismes gouvernementaux, le département d'État, l'armée, lui ont dit « ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée ». Il a parlé à des experts au Moyen-Orient. L'un d'eux lui a dit « c'est une violation de la charte de l'Atlantique. Vous essayez d'imposer des choses au Moyen-Orient » qui sont incompatibles avec ce document. Mais bien sûr, comme il croyait fermement en son propre pouvoir de persuasion, il a dit à son secrétaire d'État, Edward Stettinius, à la fin de l'année 1945, « Je pense que je vais aller au Moyen-Orient et m'asseoir avec Ibn Saoud pour avoir une bonne discussion. » Et il envisageait de sortir une carte et de montrer au roi à quel point la Palestine était petite par rapport à l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Pourquoi le roi ne pourrait-il pas autoriser la création d'une patrie juive pour permettre une plus grande immigration juive? C'était donc une expérience fascinante. Le roi est venu avec sa tente bédouine. Il est arrivé à bord de l'USS Quincy. Ils ont discuté pendant de longues heures. Le roi était âgé, comme Roosevelt. Il se déplaçait avec des cannes. Et il a dit qu'il se sentait comme son frère jumeau avec son handicap. Roosevelt lui a rétorqué, « Vous, au moins, vous pouvez marcher. » Et le roi a répondu, « Non, vous êtes bien mieux loti que moi, car vous avez ce beau fauteuil avec des roues. » Roosevelt a dit, « Eh bien, j'ai une deuxième chaise roulante. Aimeriez-vous la voir ?» Et il l'a donnée au roi, qui l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie. C'était une rencontre très intéressante. Ils se sont bien entendus. Roosevelt a répété maintes et maintes fois au roi, « Les Juifs ont été expulsés, leurs maisons ont été détruites, ils ont été torturés et massacrés. » Et il a ajouté, « Je me sens un peu responsable. » Ensuite, dans ce style qui n'appartenait qu'à lui, il a demandé au roi s'il avait un conseil à donner. « Vous savez, ils cherchent à tout prix à quitter l'Allemagne et l'Europe, où ils ont été persécutés. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ?» Et le roi, bien sûr, a répondu, ce sont les Allemands qui ont commis tout cela, ce sont les chrétiens. Nous n'avons jamais été impliqués dans cette affaire. Pourquoi devrions-nous les accueillir ? Roosevelt a essayé sur tous les tons. Il a continué à faire pression. Il a même parlé du fait que les Juifs avaient très bien réussi à rendre la terre à nouveau fertile grâce à l'irrigation. Mais le roi est resté inflexible. La mission a donc été un échec, comme tout le monde l'avait prédit à Washington. Quand il est rentré aux États-Unis, Roosevelt l'a qualifié de plus grand échec de sa carrière.
Le monde qui vient et qu'il ne verra pas ne sera pas conforme à ses desseins. Mais était-il compatible avec le nouveau statut des États-Unis, devenu première puissance mondiale ? L'Empire américain va pourtant se draper dans les mots de Roosevelt et son arsenal de la démocratie. Et il va s'appuyer sur une présidence dont il a élargi les pouvoirs.
And what's really interesting is once Roosevelt dies, you know, everything
tout passe par son bureau, tout. Et du jour au lendemain, il n'était plus là. Et c'était presque comme s'il devait recréer Roosevelt. Il devait recréer la structure institutionnelle. Roosevelt sentait qu'il était très important qu'il ait ce pouvoir parce qu'il disait « le peuple peut me renvoyer ». Il n'a pas rendu ces institutions permanentes, donc on ignore ce qu'il aurait fait une fois la guerre terminée. Mais elles ont jeté les bases d'un changement radical dans la capacité du président des États-Unis à mener des opérations militaires dans le monde entier, ce qui est encore controversé aujourd'hui.
C'est dans son propre pays que commence le dépeçage des années Roosevelt. Catherine Bronwell.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux réalisateurs, producteurs et scénaristes ayant rejoint le bureau d'information de la guerre décident de se mobiliser autour de la campagne de réélection de Franklin Roosevelt en 1944. Beaucoup d'entre eux étaient très progressistes. Ils se mobilisaient pour que Franklin Roosevelt soit réélu, mais ils défendaient également des causes comme les droits civiques et la coopération avec l'Union soviétique au lendemain de la guerre. Donc ces idées progressistes s'enracinent réellement dans la campagne de 1944. L'engagement politique de ces célébrités finit par devenir un handicap à la fin de la guerre, quand Franklin Roosevelt meurt, parce qu'il n'y a plus ce lien avec Roosevelt. Un débat s'engage alors sur le rôle de ces artistes et militants politiques. On s'inquiète beaucoup de savoir quelles personnes et quelles idées façonneront les messages des films de l'après-guerre. Ces auditions tenues au Congrès montrent également une volonté de pousser Hollywood à vendre une idéologie anticommuniste dans le contexte très spécifique de la guerre froide.
Le sénateur McCarthy est à la tête de la commission des activités anti-américaines, véritable chasse aux sorcières. Cet homme est une menace, déclare Eleanor Roosevelt, qui continue ses voyages, ses discours, ses émissions régulières à la radio.
Nous avons l'honneur de saluer aujourd'hui dans notre studio Madame Eleanor Roosevelt, qui préside la Commission des droits de l'homme et y représente les États-Unis d'Amérique. Madame Roosevelt, est-ce que je puis vous demander dans quelle mesure l'homme de la rue, le citoyen ordinaire dans un pays, peut espérer à l'avenir bénéficier des travaux actuels de la Commission des droits de l'homme ?
Si nous réussissons à avoir pas seulement une déclaration, mais un pacte, je crois que l'homme dans la rue verra une différence. Une déclaration aura une force morale. Et déjà, je crois que dans le monde entier, il y aura bien de choses qui changeront pour tout le monde et qui s'amélioreront. Mais si nous avons un pacte dans les pays qui acceptent le pacte, il y aura tout à fait des choses assurées pour l'homme de la rue et qui n'ont pas été certaines avant. Et je crois que ça changera beaucoup les choses dont il a eu peut-être peur. Il n'aura plus peur.
Elle n'a plus le statut de première dame. Elle-même est devenue cible du FBI d'Edgar Hoover,
qui peut enfin traquer celle qu'il a toujours considérée trop proche des communistes, trop proche des Afro-Américains, trop indépendante. Plus de 3000 rapports à son sujet. Méthode digne de la Gestapo, répondait Eleanor Roosevelt.
Elle avait mis de côté sa prudence. Non qu'elle fût impétueuse ou maladroite dans ses propos. Elle soupesait soigneusement l'impact de ses mots et de ses actes. Mais elle se sentait tenue de s'exprimer. Son engagement et l'intensité de cet engagement étaient tout à fait évidents. Et je crois que je le sentais par osmose. Je me demande si elle ne se reconnaissait pas un peu en moi, parce que j'étais une auditrice attentive. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'adorais écouter les conversations des adultes. J'avais conscience qu'il s'agissait là de mon héritage, par exemple. C'était ma famille. On m'avait donné son nom. Voilà ce qu'on fait dans cette famille. On s'implique dans les questions d'actualité qui impactent la vie des gens. Pas seulement notre vie, mais la vie de tous.
Elle est morte le 7 novembre 1962. Dans le journal d'Henry Morgan Saw du 16 janvier 1938, Roosevelt confiait « Nous devons penser à ce qui se passera quand nous ne serons plus au pouvoir. La prochaine administration sera soit démocrate, soit républicaine. Elle va économiser et couper dans les dépenses. Et le résultat sera le chaos. » Il savait que viendrait l'assaut contre l'État-providence.
On dit souvent que le New Deal n'a pas fonctionné, qu'il n'a pas mis fin au chômage, que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin au chômage. Mais en réalité, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a justifié cette politique de déficit budgétaire, ces dépenses fédérales massives, qui étaient absolument nécessaires pour remettre l'économie américaine sur pied. J'aime à dire que la Seconde Guerre mondiale était un New Deal sous stéroïdes. Plus de 50% du produit national brut pendant la Seconde Guerre mondiale provenait des dépenses fédérales. Et cela a nécessité beaucoup de dépenses et beaucoup de dettes. Une fois de plus, si on considère la période de l'après-guerre, on constate que les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été marquées par la plus importante croissance économique de l'histoire des États-Unis. Je ne pense pas que le niveau d'endettement ait été perçu comme scandaleux ou surprenant par la génération qui vivait à cette époque. L'impact économique global à long terme a été très positif. À certains moments, comme Keynes l'affirmait, il est nécessaire que le gouvernement fédéral intervienne pour relancer l'économie. Et dans ce cas précis, il a vraiment fallu déployer des efforts considérables pour y parvenir.
Il savait. À qui lui avait demandé pourquoi des cotisations salariales dans son projet de sécurité sociale, il avait répondu « Nous instaurons ces cotisations » pour donner un droit légal, moral et politique aux gens de toucher leur retraite et leur allocation chômage, pour que jamais un fichu politicien ne vienne mettre au rebut mon programme de sécurité sociale.
Le New Deal était extrêmement populaire. La vision que Roosevelt a mis en œuvre, dans laquelle le gouvernement avait comme responsabilité première le maintien de la santé économique de la nation, est resté très populaire tout au long des années 1940, 1950, 1960 et même dans les années 1970. Cette popularité commence à s'effriter dans les années 1970 à mesure que la perception du public change quant au rôle du gouvernement, particulièrement dans les années 1980 avec l'élection de Ronald Reagan, qui était, comme Roosevelt, très efficace dans l'expression de sa vision pour l'Amérique. On commence alors à se détourner du New Deal. Le Parti démocrate adhère à cette idée selon laquelle trop de réglementation, trop de contrôle du secteur financier et du secteur bancaire créent des défis économiques injustes pour le milieu des affaires.
Challenges that the American business community does not deserve.
L'ironie veut que l'une des dispositions les plus importantes du New Deal, à savoir l'adoption de la loi Glass-Steagall au cours des 100 premiers jours, a produit deux choses très importantes. Tout d'abord, elle établit la Société fédérale d'assurance des dépôts, qui fait que les dépôts des particuliers sur leur compte d'épargne et leur compte bancaire sont garantis par le gouvernement fédéral jusqu'à un certain niveau. Mais la décision de séparer les banques commerciales des banques d'investissement est tout aussi importante, et pourtant souvent oubliée. En d'autres termes, si je veux ouvrir un petit commerce dans le centre-ville de Chicago, je ne vais pas m'adresser à une banque d'investissement, mais à une banque commerciale, à mon banquier local. On a besoin d'entreprises prêtes à prendre des risques et à faire des investissements importants. Mais très judicieusement, la loi Glass-Steagall a séparé ces deux entités. Si Wall Street se retrouvait dans la tourmente, cela n'affecterait pas les particuliers. Comme vous le savez, dans les années 1990, l'administration Clinton a fait sienne cette idée selon laquelle il fallait en finir avec la loi Glass-Steagall. Et elle a fait passer la loi Gramm-Leach en 1998, qui rendait légale la fusion des banques commerciales et des banques d'investissement. C'est ce qui a permis la création de ces énormes conglomérats, comme Citigroup, des banques prétendument trop grosses pour faire faillite, et qui se sont effondrés en 2007, 2008 et 2009. L'environnement déréglementé dans lequel ces entités ont opéré au cours des décennies qui ont précédé 2008 a eu des conséquences désastreuses.
Michael Kazin.
Les démocrates ont eu un problème au cours des 50 dernières années, mais cela s'est accéléré ces 15 ou 20 dernières années. Ce parti était autrefois celui de la classe ouvrière. Il a été soutenu par les électeurs de la classe ouvrière pendant la majeure partie de l'histoire américaine. Aujourd'hui, les électeurs blancs de la classe ouvrière soutiennent massivement le Parti républicain. Les électeurs noirs et latinos de la classe ouvrière soutiennent toujours le Parti démocrate, mais ils sont un peu moins nombreux qu'auparavant. Et c'est en grande partie à cause de la domination du néolibéralisme dans les débats. Non seulement au sein du Parti républicain, mais aussi au sein du Parti démocrate, avec des figures comme Bill Clinton et, dans une certaine mesure, Barack Obama.
Le nom de Roosevelt, comme le mot New Deal, sont aujourd'hui repris par ceux qui cherchent des réponses réelles au réchauffement climatique. En 1936, suite aux tempêtes de poussière et à la sécheresse, la loi agricole avait créé le département de la conservation des sols, avait prévu de payer les agriculteurs pour qu'ils ne replantent pas, avait prévu de les former et de laisser le sol se réparer. Qui se souvient qu'un gouvernement a un jour osé encadrer une agriculture de plus en plus intensive ? À Hyde Park, où l'on célèbre chaque année l'anniversaire de la naissance de Roosevelt au bord de sa tombe, son arrière-petit-fils, le rabbin Joshua Boettiger, alertait au mois de janvier dernier.
Une dernière chose. Alors qu'on entre dans un nouveau cycle électoral, si tant est qu'on sorte jamais du cycle apparemment sans fin des élections, il me semble que Franklin Roosevelt pourrait dire « Nous ne pouvons pas être cyniques ». Ou en tout cas, nous ne pouvons pas nous confondre avec notre cynisme. Nous n'avons pas le luxe du cynisme par rapport à ce que l'État peut faire de plus beau et de plus prometteur. Pour continuer à y croire, nous devons rêver grand pour la suite, mettre des images et des mots sur ce à quoi ça ressemblerait. Ne pas laisser une politique du désespoir dominer nos facultés à la fois critiques et créatives. Both our critical and our creative faculties. Thank you.
Michael Ottenreith, le ranger du domaine, continuait, lui, de dialoguer avec les fantômes.
À ses débuts, la présidence de Roosevelt a fait face à de nombreux défis. Un Américain sur quatre était au chômage quand il est entré en fonction en mars 1933.
La bourse avait perdu 90% de sa valeur. Il était soumis à un tel stress qu'il n'arrivait pas à dormir.
Et
pour vaincre ses insomnies, il s'imaginait, enfant, en train de faire de la luge sur cette colline. Il visualisait toutes les étapes dans sa tête, monter en haut de la colline, dévaler la pente sur sa luge, remonter la colline en traînant la luge derrière lui et descendre à nouveau jusqu'en bas. Et après avoir répété ça plusieurs fois, il finissait par s'assoupir.
Devant cette même tombe, le jour des funérailles du président quatre fois élu, Eleanor Roosevelt avait simplement dit « L'histoire est terminée ». Puis l'armée avait rendu à Franklin Delano Roosevelt un dernier hommage.
Firing party! Fire! Three! Volley!
Party! Party! Attention! Stand by! Ready! Ready! Aim!
C'était le dernier épisode de la grande traversée Franklin Roosevelt, l'allié, avec Geoffrey Ward, Ivan Nabokov, William Harris, David Woolner, Anne Roosevelt, Michael Kazin, Rebecca Herbelding, Michael Ottenreith, Kirsten Carter, Catherine Bronwell. Et les voix de Clara Chabalier, Liz Combe, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Evelyne Guimara, François Loriquet. Prise de son, Benjamin Thuo, Valentin Azan-Zielensky. Traduction, Céleste Carlin, Marine Elgon. Recherche, Ina, Sabine Dahuron. Mixage, Valentin Azan-Zielensky. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon.